Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, ou même très, très loin. Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
C'est 23.
L'essentiel de Paul Arcand, tout ce que vous devez savoir chaque jour en moins de 60 minutes. Bonne écoute.
D'ailleurs, en France, je regardais ça ce matin, pour la journée de mardi, on a battu un record pour l'ensemble de la France à 27 degrés. Vous me direz, on n'est pas dans les 40. Non, mais c'est la moyenne pour l'ensemble du pays. Et dans plusieurs secteurs, ce sont des températures beaucoup plus élevées, 35, 36, 37 degrés. Il y a un auditeur qui m'écrit qu'il est près de Narbonne, qu'il est arrivé là-bas le 3 août, pas une goutte de pluie depuis son arrivée, et il fait extrêmement chaud, il faisait 36 degrés. Alors, température élevée. Et un mot aussi sur les feux de forêt qui continuent de préoccuper, c'est un peu plus calme. Mais quand même, on le sait, c'est en termes d'impact sur l'environnement. Puis on sait maintenant, grâce à une étude, que la responsabilité des feux de forêt cette année est attribuable en bonne partie, pas totalement, là, mais en bonne partie au changement climatique. Il y aura un expert qui va nous en parler tantôt. Et ajoutons, dans le cas de Maui, où on poursuit les recherches, on sait qu'officiellement, il y a quand même 115 personnes qui sont décédées, mais il y a plus de 1000 personnes qui sont portées disparues. Et quand vous regardez l'état des lieux, puis essayez de fouiller à travers les décombres, c'est une tâche ardue, complexe, extrêmement difficile. Donc, on pourrait se retrouver avec un bilan très lourd. Et pour ce qui est de ces prévisions qu'on regarde souvent à plus long terme, on sait déjà que le mois de juillet a été le mois le plus chaud à travers le monde de l'histoire moderne. Et tout indique que le mois d'août, quand on fait une évaluation, va ressembler aussi à un mois d'extrême. On l'a vu avec des phénomènes inhabituels, comme ces pluies abondantes du côté du sud de la Californie. Également le Texas, Maui, je viens d'en parler. Il y a eu également des pluies torrentielles en Inde. Le Maroc a été touché, le Japon a été touché par une vague de chaleur. Le sud de l'Europe, je viens vous en parler, touché aussi. Donc des températures quand même pour le mois d'août qui sont pas habituelles. Ici au Québec, ce sont des températures qui sont un peu dans la norme jusqu'à maintenant. Et on verra ce que le mois de septembre va nous réserver. Maintenant, dans l'actualité, beaucoup de choses ce matin. D'abord, on a appris hier soir, là, c'est dans la presse, dans The Gazette aussi, que la Ville de Montréal envisage de fermer aux autos le fameux chemin Camillien-Houd. Ce serait donc une voie réservée aux cyclistes et aux piétons. Et quand je dis interdit aux véhicules, ça inclut dans le projet, dans l'idée, les véhicules d'urgence. Police, incendie. Là, vous comprendrez que la version officielle de la ville, c'est de dire « Ouh, c'est une idée, ça fait partie des projets, là. C'est pas encore décidé, c'est une option qui est à l'étude actuellement. Le cabinet de Mme Plante a finalement confirmé que c'était un des scénarios parmi d'autres. Il y a personne qui veut trop tôt commenter, mais l'histoire nous enseigne que quand la Ville de Montréal annonce des consultations, c'est que leur idée est déjà pas mal faite. Rappelez-vous, le chantier des chantiers, le fameux sommet, communiqué est après avant. Alors, tu sais, c'est pas consultation. La Ville de Montréal, quand ils parlent de consultation, c'est pas mal réglé. Ils font des sondages assez bidons. Et aussi, il y a comme un spin qui s'installe pour dire non, non, on fera pas ça. Ah, les taxes, on est en réflexion. C'est comme pour préparer l'opinion publique. Alors là, vous comprendrez que le service des incendies de Montréal a écrit une lettre qu'on retrouve dans les médias ce matin, dans la presse. « Selon nos études, il y aura une augmentation de nos temps de trajet sans connaître quel sera l'impact d'un seul accès au Mont-Royal pour les usagers. Il est à prévoir une augmentation d'embouteillage. Les répercussions possibles se feront sentir sur les usagers qui vont avoir besoin du service d'urgence. » La question qu'on a le droit de se poser ce matin. On comprend, là, il y a le belvédère qui a un stationnement, puis il y a des gens qui vont là tous les week-ends, puis même en semaine, là, durant la belle saison. Il y a des pique-niques. Je sais qu'il y a eu un accident mortel. Il y a eu un réaménagement, quand même, de l'espace. Mais est-ce qu'on doit interdire, par exemple, un véhicule qui se rend au sommet avec une famille pour aller faire un pique-nique là au sommet puis qui stationne au belvédère? Est-ce qu'actuellement, c'est un enjeu à ce point? C'est toujours pareil. Y a-t-il moyen de réorganiser l'espace, peut-être, et au lieu de l'interdire complètement, parce que de l'interdire complètement, moi, je demande à voir les études. Est-ce que y a combien de cyclistes qui passent là dans une journée? Un. Deux, est-ce qu'il y a des aménagements autres qui peuvent être faits? Trois, il y a combien de voitures? De vraiment donner l'information, là, pour pas que ça devienne comme une espèce de symbole entre les anti-autos qui vont dire, bon, finalement, on a notre Mont-Royal à nous autres tout seuls, puis des gens qui veulent juste se servir du chemin Camilien Haute pour traverser vers Côte-des-Neiges plus facilement. Alors, c'est une des options qui est sur la table. Et tout ça arrive alors que la ministre Geneviève Guilbeault a présenté hier son plan, concert des loges, ce qu'on vous disait hier matin, donc des amendes plus salées, plus de radars. On veut aussi protéger le citoyen vulnérable, le cycliste, le piéton. Et il y a deux questions qui reviennent. Les intentions, là, c'est parfait, là. Personne qui va argumenter là-dessus. Les Québécois conduisent trop vite. Il faut qu'ils lèvent le pied, puis il faut qu'ils aient une conduite plus responsable, principalement en ville, aux abords des écoles et dans les quartiers. On sait qu'on va réduire à 30 km, par exemple. François Corteau est l'ancien maire de l'arrondissement de Rosemont. Et hier, sur nos zones, il a tenu des propos que je veux vous faire et entendre parce que je suis assez d'accord avec lui.
Ce qui fait ralentir et changer les comportements des automobilistes, c'est lorsqu'il y a des contraintes physiques, des aménagements clairs qui font que le véhicule ne peut pas rouler plus vite que 30 km/h. Si une municipalité ou le gouvernement ne fait que des aménagements de panneaux de signalisation, l'expérience nous a démontré que ça n'a aucun impact.
Je pense qu'il a raison. C'est comme les campagnes d'alcool au volant. C'est très bien, là, de l'alcool au volant, c'est épouvantable, c'est criminel. C'est pas ça qui fait peur au monde. C'est d'être pris sur le fait de perdre ton permis, puis ultimement, peut-être, de te retrouver en prison avec un dossier criminel. C'est ça qui a fait peur, là, qui a fait que les chiffres se sont soudainement améliorés. Alors, moi, je pense qu'il y a raison là-dessus. L'autre aspect, comment le MTQ va faire atterrir ça? Parce que la ministre a ses grands principes, ses objectifs. Alors, par exemple, autour des écoles, quel sera le type d'aménagement? Là, on est supposé reprogrammer le cerveau des ingénieurs pour tenir compte de cette nouvelle réalité. Moi, j'ai plein de questions. On va lui parler tantôt. Mais c'est sûr que les élus qui font affaire avec l'État savent très bien que quand un ministre ou une ministre parle, c'est une chose. C'est vrai en santé, c'est vrai en éducation, c'est vrai en transport. Et la déclinaison dans l'appareil gouvernemental arrive au niveau du terrain avec parfois pas tout à fait ce que le ministre a dit ou a promis. Donc, on va pouvoir regarder ça. Très bien. Donc, éducation, le Journal de Montréal nous dit que Bernard Drainville va annoncer sous peu là ou va envoyer une directive à l'ensemble des écoles du Québec pour interdire le téléphone intelligent en classe. Donc, terminus pour le cellulaire. Comme on le voit en Ontario, il y a quelques différences, là, mais bon. Alors, ça veut dire qu'on n'a pas l'intention d'interdire le matériel informatique, que ce soit une tablette ou le téléphone, quand c'est pour des fins d'éducation pédagogique. Mais ça veut dire que les ados pourront pas là, passer leur temps à avoir le téléphone en classe. Puis ils vont devoir, j'imagine, peut-être le laisser à la porte. En tout cas, les modalités restent à voir, mais ce serait donc annoncé comme tel. Et ce sont les écoles qui vont devoir gérer ça. Cependant, ce serait pour le réseau public, pas nécessairement pour les écoles privées. Remarquez qu'il y a des écoles privées qui ont déjà des règlements. Et puisqu'on parle public-privé, là, on apprend ce matin que pour la santé psychologique des enfants, les écarts entre le privé et le public sont frappants. C'est Dr Mélissa Généreux, qui est professeure à la Faculté de médecine et des sciences de la santé à l'Université de Sherbrooke, qui a fait l'étude. parmi d'autres. Et ce qu'on constate, c'est que pour ce qui est de la consommation, alcool, drogue, ou même le vapotage, la motivation scolaire, les périodes de dépression, les idées noires, c'est nettement plus élevé quand on est au public qu'au privé. Il y a toutes sortes de raisons pour expliquer ça, là, le choix de la clientèle. Mais je vous donne quelques exemples. Pour ce qui est de la consommation de la cigarette électronique, la vapoteuse, il y a 22% du public, des élèves qui disent avoir consommé, vapoté, contre 9% au privé. Consommation excessive d'alcool, c'est répandu au privé à 13%, au public à 13%, puis à l'école privée à 9%. Marquez que ce sont des indicateurs, là, puis ça veut pas dire que dans les écoles publiques, c'est l'enfer, puis que dans l'école privée, c'est le paradis sur terre. Mais moi, je me mets à la place des parents, là, qui sont attentifs au débat autour de l'éducation. Et là, je vais faire une image affreusement démagogique ce matin. Vous êtes prévenus, là. Allez pas me citer au mot, c'est pour illustrer une situation. Vous êtes parent, votre ado fréquente l'école publique. Ça commence la semaine prochaine. Un, il sait pas s'il va y avoir du transport scolaire pour se rendre. C'est aléatoire. Donc déjà là, il y a un enjeu. Le deuxième enjeu, il va peut-être se retrouver dans une classe avec un adulte de 18 ans. Donc peut-être pas un prof formé, quelqu'un de bonne foi, sans aucun doute, mais tu sais, on s'entend que ça limite. En plus de ça, on apprend que de plus en plus, c'est terminé pour les manuels scolaires qu'on pouvait revendre d'une année à l'autre. Là, il faut écrire dans le livre. Puis parfois, il y a à peu près rien, mais tu peux pas l'utiliser. C'est comme une façon de refiler la facture aux parents. Là, on t'explique aussi, comme étudiant, qu'avec les moyens de pression des profs, ça se peut que beaucoup d'activités soient annulées. Des sorties. Je regardais ce matin, on donnait un paquet d'exemples là, de trucs qui pourraient malheureusement, la fête de la rentrée. Ça fait partie des moyens de pression. Et là, t'apprends en plus, je le disais tantôt, qu'au mois de juin dernier, il y a eu un niveau d'échec très élevé aux examens du ministère. Je ne sais pas pour le privé, on n'est pas capable d'avoir les chiffres du ministère, mais pour l'épreuve ministérielle d'histoire, c'est quand même élevé. Puis je le disais, là, puis je répète rapidement, là, il y a la note, la moyenne de l'année, il y a la note de l'examen, puis selon votre groupe, pas l'école, selon votre groupe, c'est une classe forte, moyenne, ben là, on joue avec la note. Ce qui fait que des étudiants, étudiantes qui ont eu, par exemple, 66, 67, 68, cool. Moi, j'ai un cas d'une mère, 75 toute l'année, 48. Et je vais parler avec un enseignant, M. Patrick, qui nous explique un peu pourquoi on en est arrivé là. Et savez-vous ce que fait le ministère de l'Éducation, puis les gens, ils mettent ça sur le dos des profs. En disant, les profs n'ont pas été bien bons pour les préparer à l'examen. Peux-tu vous dire que des profs d'histoire qui sont un peu contrariés de ça? Et puisqu'on parle d'enseignement, Le Devoir nous dit que la fameuse prime offerte de 12 000 $ aux enseignants qui repoussent la retraite, on ne peut pas dire que c'est un gros succès. À Montréal, comme tel, 5 enseignants. 5 enseignants qui ne sont pas partis à la retraite et qui ont accepté de prolonger. Donc, on a encore tous ces problèmes d'effectifs. Je veux aussi parler du cégep Maisonneuve. C'est un peu une répétition, là, mais l'agenda de la rentrée, l'agenda étudiant est fait par l'association étudiante. Il y a beaucoup d'auditeurs qui m'ont envoyé des photos de l'agenda de cette année. Et bon, c'est sûr que c'est un agenda, là, comment dirais-je, anti-police, ça c'est clair, avec, je dirais, des photos, des avis, des conseils. Jusque là, c'est pas si mal, tu sais. La police n'a pas le droit de vous interroger si vous voulez pas parler. C'est un rappel des droits, c'est un rappel du profilage. Bon, c'est un agenda de l'association. Là où j'ai un problème, c'est quand une des illustrations, c'est des policiers, en fait des porcs déguisés en policiers, des pigs. Je trouve ça insultant, je trouve ça méprisant. Puis je sais que le collège va s'en laver les mains et va dire, ben pas de ma faute, c'est dans la cour de l'association. Je rappelle cependant, au cégep Maisonneuve, il y a des étudiants, des étudiantes en technique policière. Puis moi, je suis étant en technique policière, puis que mon association étudiante me traitait de porc potentiel, je trouverais ça assez ordinaire. Mais, ça fait partie de la liberté d'expression. Mais c'est la deuxième année, je pense, au moins, là, où il y a une controverse ce côté-là. Je vais parler du REM. c'est pas compliqué un peu, là. Là, on a appris que finalement, tout ce qui concerne la billetterie, c'est dans la cour de la RTM, donc l'Autorité régionale de transport métropolitain. Et là, je sais que depuis vendredi passé, ils ont fait des changements. On va essayer d'être clair, on reçoit le DG ce matin. Là. D'ailleurs, vous avez des questions sur comment acheter des billets, ou est-ce que ça marche pas. Puis là, rappelez-vous qu'hier, on apprenait qu'un étudiant de McGill, en 3 mois, a fait un programme permettant de recharger sa carte à partir du téléphone, ce qui prend des siècles à la RTM pour se brancher. Ce matin, dans la presse, la signalisation est déficiente, comme si on ne savait pas là que le REM s'en venait, puis qu'il y aurait des corridors dans le métro, exemple Bonaventure, Gare centrale. C'est un étudiant, encore là, en graphisme, qui est décidé, lui, pour aider les touristes, parce qu'il y en a quelques-uns l'été, puis les Montréalais qui ne sont pas encore familiers, il a installé des logos avec des flèches pour guider les gens, pendant qu'on a un comité qui réfléchit à ça. Alors, on va vous en parler ce matin. Puis aussi, on revient sur le covoiturage. Cette voie qui est fermée, ça ne tient pas la route, on ne sait pas pourquoi, mais malheureusement, c'est comme ça. Radio-Canada, ça, j'ai ri ce matin. La commission Charbonneau, ça fait un petit bout, là. Et les pratiques reviennent peut-être avec des approches différentes, mais là, la commission sur l'examen des contrats de la ville recommande de mettre en place des mesures pour favoriser la concurrence dans le monde du déneigement. Les poubelles, le remorquage, puis le déneigement, là, c'est toujours une forme d'enjeu. Ce qu'on observe, c'est une hausse importante du prix des contrats au-delà de l'évaluation municipale. Puis là, je sais que les entrepreneurs vont me dire, ouais, mais coûte plus cher la main-d'œuvre, etc., etc. Mais on remarque quand même que souvent, c'est élevé, puis qu'en plus, il y a un seul soumissionnaire. Good old days, je ne le sais pas, mais ça va être intéressant à suivre. Et également, il y a tout un débat, je vais terminer là-dessus. En fait, deux débats sur les langues officielles. Il y a de plus en plus de Québécois francophones qui parlent anglais, en fait, qui maîtrisent l'anglais. C'est en progression. C'est au-delà de 50 % des Québécois qui sont capables à tout le moins de se débrouiller en anglais. Et veux, veux pas, c'est un peu l'allure du marché international puis du monde du travail. Ce qui ne veut pas dire que le français ne doit pas être protégé, parce que le français sera et sera toujours une langue menacée. Et l'autre débat, ça concerne les étudiants. Là, Ottawa est arrivé avec l'idée, pour combattre la crise du logement, de limiter, de faire baisser le nombre d'étudiants étrangers. Hey, on n'est pas loin de 800 000 étudiants étrangers au Canada, là, qui débarquent, puis, évidemment, qui courent après des chambres, des petits appartements, mais ça crée une pression. Puis là, les provinces, Québec a dit, pas de vos affaires, comprendrez que c'est une business de 20 milliards, les étudiants étrangers. Ils payent plus, très cher, les frais de scolarité. Et les provinces veulent pas se priver de ça, même s'il y a eu des cas de magouille là, puis de fraude. Là. Mais en même temps, c'est un bassin intéressant, parce que ce sont des gens, je pense au Québec, là, qui viennent ici, qui vont étudier ici, là, les vrais, vrais étudiants étrangers, qui vont s'établir, qui vont développer un lien d'appartenance, puis qui finalement vont déjà, quand ils vont obtenir leur statut éventuellement, ben probablement fonctionner plus vite que d'autres dans la société québécoise. Alors, débat fédéral-provincial là-dessus.
Vous écoutez l'essentiel de Paul Arcand en 60 minutes. De retour après la pause.
Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
L'essentiel de Paul Arcand.
Notre invité ce matin, Geneviève Guilbeault, a présenté hier la nouvelle stratégie, le plan en sécurité routière. Elle est avec nous ce matin. Madame Guilbeault, bonjour.
Bonjour, Monsieur Arcand.
On peut dire que les échos, les réactions sont quand même assez favorables, en tout cas sur les grands principes là, que vous avez présentés hier. Là, on les rappelle, c'est-à-dire amener les Québécois à ralentir, protéger les zones scolaires, les citoyens les plus vulnérables, cyclistes, piétons, réactiver la table de concertation. Il y a un paquet de mesures oui. Dans ça. Moi, je veux voir concrètement comment ça va marcher. C'est ça qui, évidemment, m'intéresse tout le temps. Là. Quand vous dites protéger le cycliste et le piéton? Concrètement, là, donnez-moi des exemples de ce que ça peut vouloir dire comme mesure.
Ben pour les cyclistes puis les piétons, ben il y a une foule de choses, mais il y a beaucoup de mesures sur l'aménagement. Parce que tu sais, il y a la répression, les photoradars, les points d'inaptitude, les amendes, il y a tout le répressif, je dirais, autour de ça. Mais en termes de prévention, c'est un des éléments clés, c'est l'aménagement. Puis c'est peut-être ça qui a fait défaut dans de précédents plans de la sécurité routière, parce qu'en fait, c'est sûr que c'est plus compliqué. L'aménagement de sites déjà existants, d'infrastructures déjà existantes, ça nécessite des changements. Ça nécessite, par exemple, de faire des trottoirs où il n'y en a pas, de peut-être modifier des largeurs, d'installer des pistes cyclables, d'installer des dos d'âne, des signalisations. Puis là, je veux de la signalisation innovante. Il y a des choses intéressantes qui se font ailleurs. Pourquoi pas les importer ici? Des traverses lumineuses, des choses comme ça. Puis en passant, les traverses pour piétons, il y en a déjà plusieurs, mais il y a beaucoup de gens qui ne les respectent pas, malheureusement. Donc, c'est là qu'on peut tomber dans peut-être le type ou la gravité des sanctions pour certains types d'infractions. Donc, ce sont tous des exemples de ce qu'on peut faire pour mieux protéger nos cyclistes, nos piétons et en même temps les nouvelles formes de mobilité. Vous savez que depuis cet été, j'ai un projet pilote sur 3 ans pour la micro-mobilité, les nouvelles mobilités, les trottinettes, les gyro-roues, ces choses-là qui sont apparus et qui ne sont pas encadrés actuellement. Là. Donc, ça pourrait devenir dangereux si on les encadre.
Je comprends l'aménagement. Le maire de l'ancien maire de Rosemont a dit ça, justement, qu'on peut faire toutes les campagnes qu'on veut de la prévention tant et aussi longtemps qu'il n'y a pas des obstacles réels sur le terrain. Les gens ralentissent pas tant. Mais moi, là, par exemple, là, je suis un piéton, puis il y a, je ne sais pas moi, pas un cycliste, mais une automobiliste qui me frôle, qui passe près de... Il y a une amende plus importante. Comment, au niveau de la répression... Comment vous allez protéger plus puis que vous en faites des citoyens plus vulnérables?
Ben d'abord, si l'aménagement est favorable pour la cohabitation,
non, mais en
plus
termes de sanctions, c'est ça ma question.
C'est ça. Ben ça pourrait aider, mais si on tombe dans la répression, une fois que l'infraction est commise ou que le danger est réel, ben après ça, on tombe dans tout ce que je vais faire par rapport à la hausse des points d'inaptitude ou à l'introduction de points d'inaptitude pour des infractions qui en ce moment n'en ont pas. Ça, c'est quelque chose sur lequel je travaille et la hausse des amendes aussi. Je vais avoir besoin d'un projet de loi. Un de mes engagements, un des premiers engagements du plan, c'est le premier livrable, c'est un projet de loi que je vais déposer cet automne, qui va me permettre de modifier le code de la sécurité routière, donc de jouer sur certaines amendes et en parallèle avec un règlement sur les points d'inaptitude. Et c'est là que je disais hier, évidemment, c'est pas un politicien de se prononcer nécessairement sur comment ça fonctionne dans les autres administrations. On regarde un peu comment ça se fait ailleurs, puis qui a des bons bilans, puis comment ils procèdent. Mais après ça, je pense que c'est le rôle d'un ministre de donner un certain signal à travers le type d'infraction sur lesquelles on va venir sévir. Et ça,
donnez-moi
c'est ce que
ce
je veux faire.
Signal-là.
C'est exactement ce que vous disiez tout à l'heure, là, pour les piétons, pour les écoles, pour les chantiers routiers aussi, parce que les signaleurs routiers puis les travailleurs de chantier sont tannés de parce que tu sais, il y a beaucoup de gens impatients autour des chantiers.
Il y a eu plusieurs blessés dans la dernière année sur les chantiers.
Beaucoup. Il y a eu 8 décès en 2022 et au total 822, là, incluant les blessures. Donc, et eux, c'est parmi les premiers groupes. C'est le premier groupe que j'ai rencontré 3 jours après ma nomination et qui m'ont sensibilisé. Alors, il y a un axe complet là-dessus dans mon plan que j'ai déposé hier. Et donc, je pense que c'est le genre d'exemple où on pourrait sévir sur les amendes et on pourrait avoir aussi plus de radars photo. Plus de radars photo, ça va nous aider aussi, parce que ça fonctionne.
Il y a différentes technologies qui existent. Pardon, le radar photo, il y a des appareils qui ont déjà été testés à Longueuil sur la rive sud, sur les piétons justement qui traversent et qui mettent leur vie en danger, même quand c'est une traverse là, spécialement aménagée. Allez-vous faire appel à toutes ces technologies qui existent, souvent même par des firmes québécoises?
Oui, j'ai un appel de proposition qui est en cours depuis le mois de juillet, le 3 juillet, si je ne m'abuse, ou le 6, et qui est en vigueur jusqu'au 26 septembre. Alors là, on va recevoir des propositions, puis on va être capable de voir ce qui se fait ailleurs dans le monde. Ça peut être ici au Québec, au Canada, mais ça peut être ailleurs aussi. Parce que moi, je vais avoir plus de photoradars, mais je vais avoir ce qui est le plus technologique, ce qui est le plus intéressant, ce qui est le plus efficace. Puis je veux en même temps aussi revoir la gouvernance, la gestion des photoradars, parce qu'en ce moment, c'est très lourd. Vous qui connaissez bien le milieu policier et tout ça, ça nécessite tu sais les ressources policières pour après ça parce que la photo se prend mais après ça il y a un traitement qui doit se faire
compliqué.
Les constats doivent être signifiés, il y a une espèce de part discrétionnaire ou de gestion discrétionnaire de la part des policiers, ensuite au BIA, au bureau des infractions et des amendes, donc les ressources juridiques. Alors j'ai parlé à mon collègue de la justice, j'ai dit est-ce qu'on peut modifier le type de sanctions, faire peut-être des sanctions administratives plutôt que pénales, comme ça on atteint le même objectif, ça coûte le même prix mais c'est beaucoup plus simple, puis on ne draine pas nos ressources policières qui ont bien d'autres choses à faire entre vous et moi.
L'alcool au volant. Est-ce qu'il y a un débat actuellement pour ramener ça, comme dans beaucoup de juridictions, là, à passer de 0.08 à 0.05.
C'est quelque chose qui se discute depuis longtemps. Moi, je sais que la SAAC parle de ça depuis longtemps. On n'en a pas parlé directement, la SAAC et moi, depuis que je suis arrivée. On a eu
Mais vous, vous en pensez
dossiers.
Quoi?
En ce moment, on n'est pas là. On n'est pas là. C'est pas pour rien que c'est pas dans mon plan et c'est pas quelque chose que j'ai étudié pour mon plan non plus. Pour l'instant, on est au 0.08. C'est sûr que, comme je disais hier à quelqu'un qui me pose la question, moi, je suis ministre en ce moment aujourd'hui, mais ça veut pas dire que dans l'avenir, il y a pas quelqu'un à un moment donné où il y a pas des discussions qui pourraient évoluer même à l'intérieur du présent mandat. Mais en ce moment, c'est pas du tout quelque chose qu'on a l'intention
Pourquoi
de faire.
C'est pas un enjeu actuellement? Vous dites, c'est pas, autrement dit, là, sur la table à dessin, là, c'est pas, ça fait pas partie des priorités.
Non, ben il y avait plein d'autres, la sécurité publique, le routière, c'est un spectre très large, c'est très complexe. Tu sais, quand on me dit qu'est-ce que tu vas faire pour améliorer le bilan, là, c'est compliqué. C'est pour ça qu'il y a 6 axes dans mon plan, puis il y a toutes sortes de choses. Est-ce que la modification du 0.08 à 0.05 aurait pu influencer positivement le bilan? La question peut se poser, mais je pense qu'avec tout ce qu'on a mis dans le plan hier, on peut déjà atteindre l'objectif d'améliorer le bilan routier. Et c'est comme qu'on me parle de la taille des voitures. On me dit, il n'y a rien sur la taille des voitures. Effectivement, c'est un débat, c'est des discussions qui ont cours en ce moment, beaucoup avec les fabricants automobiles. Mais c'est pas quelque chose qui est dans le plan. Ça veut pas dire qu'un jour, après moi, peut-être, des décisions pourraient se prendre. Sauf que, en ce moment,
êtes-vous d'accord avec Fitzgibbon qui devrait y avoir 2 fois moins d'autos?
Ben, je pense que c'était une façon imagée de dire qu'il faut tendre vers moins de voitures. C'était peut-être une espèce d'asymptote, là, comme j'aime l'illustrer. C'est un peu comme la carboneutralité en 2050. C'est des idéaux. Carboneutralité 2050, on va l'atteindre, je suis bien certaine, avec tout ce qu'on est en train de mettre en œuvre, entre autres avec le PEV. Mais, tu sais, la moitié moins de voitures, faut quand même être réaliste. Là, en dehors des grands centres urbains, il n'y a pas une offre de transport collectif suffisamment attrayante pour que les gens puissent abandonner la voiture partout. Là. Alors, faut être conscient des diversités régionales.
OK. En parlant de transport collectif, on a eu un débat ici depuis le début de la semaine quand le ministère a décidé au chantier du tunnel la fameuse bretelle des futailles qui était réservée aux autobus et aux véhicules avec 3 personnes et plus. Donc, le covoiturage. Paraît que tellement de gens qui respectent pas la directive, on a décidé d'empêcher le covoiturage, les gens de passer là. Trouvez-vous que c'est une bonne idée de fournir une voie puis de l'enlever? Parce qu'il y a des récalcitrants.
Ouais, ben ça là, il y a la forme et le fond dans cette affaire-là. Quand on avait commencé cette mesure-là en mars, c'était sous forme de projet pilote quand même. On voulait voir ce que ça donnerait. Donc il y avait toujours la possibilité de retirer la chose s'il y avait des enjeux, entre autres de sécurité. Donc sur le fond, s'il y a bel et bien les enjeux de sécurité dont on nous a parlé,
Je suis d'accord que je peux mettre.
Ben c'est pour ça, je vais arriver à la forme après. Je suis d'accord que on peut pas compromettre la sécurité. Tu sais, je viens de sortir un plan de sécurité routière de plus de 180 millions. Je peux pas en même temps cautionner un aménagement qui fera en sorte parce que là, à cause du U-turn, tu sais, vous savez, tu montes futaille, puis après ça, faut que t'ailles prendre la bretelle et là, les gens faisaient un U-turn quand ils voyaient un policier. Alors ça, évidemment, ça a pas de sens. Et ce qu'on
c'est
me dit
la même
aussi,
chose sur souligné.
Ben c'est pour ça que tu sais en même temps on fait ce qu'on peut avec les mesures d'atténuation dans la mesure où il y a ce gros chantier là dans le tunnel. Et ce qu'on me dit aussi c'est que il y a très peu de gens qui effectivement covoituraient, qui utilisaient cette voie-là, il y a même des camions lourds qui y allaient alors qu'à l'origine le but c'est que le transport collectif puisse avoir une voie d'accès privilégiée pour inciter le transport collectif. Donc ça c'est le fond. Sur la forme maintenant. Moi j'ai appris ça aussi un peu dans les journaux, c'est sûr qu'il y a eu les vacances à travers ça là, je vais être indulgente là, des fois tu sais moi-même j'ai pris des vacances, bon, il y a eu des gens. Et là on a appris ça parce que vous en avez parlé, puis là, ça a été un peu, je pense qu'il y a eu un effet de surprise. Je pense que ça a été mal communiqué. Et donc, moi, depuis que c'est sorti, je demande à ce qu'on me donne, et puis je vous entendais hier en entrevue avec un de nos porte-paroles, je demande à ce qu'on me transmette l'information factuelle sur laquelle repose cette décision-là, et ça semble fastidieux. Alors, encore hier soir, vers 9h30-10h, je parlais à mon sous-ministre, j'ai dit, j'ai besoin de connaître les faits,
mais
les
si,
interceptions,
si,
la réalité, les plaintes.
Mais si c'est simple, pourquoi c'est si compliqué?
Et on verra.
Pourquoi c'est si compliqué de vous donner l'information si la réponse est simple?
Ben, c'est exactement ce que je vous dis. Je dis, moi, s'il y a quelqu'un qui a pris cette décision-là quelque part, premièrement, c'est qui? Deuxièmement, sur quelle base? Est-ce que, parce que là, j'ai vu des photos, là, il faut dire, de gens qui circulaient effectivement en sens inverse à cause du U-turn en question parce qu'ils ont vu un policier puis ils ont peur d'avoir un constat d'infraction. Mais j'ai besoin d'avoir l'ensemble de l'information. On peut pas comme ça. Moi, je peux pas aller défendre une décision si je suis même pas capable de savoir sur quoi elle se base.
La 132.
Le sens commun nous dit qu'effectivement, un U-turn dans le sens inverse où tu rencontres carrément l'autre sens, ça a aucun bon sens, là.
C'est sûr.
Mais j'ai besoin de l'information complète.
Mais la 132 où les gens coupaient pour aller prendre la 20, on n'a pas fermé la bretelle, on a réaménagé l'espace pour que ça se fasse plus. Plutôt que d'enlever une voie réservée, y a-tu quelqu'un qui s'est dit peut-être on peut refaire l'aménagement, on peut penser une nouvelle approche? C'est parce que le gouvernement envoie, quand je dis c'est le ministère, là, un drôle de message. Des gens qui faisaient pas de covoiturage se regroupent, prennent la voie et se font dire à partir de maintenant, c'est terminé. C'est un bizarre de message.
Ben oui, puis c'est... Mais... Je crois, pour ce que j'en sais, c'est quand même une minorité de gens qui passaient là, qui effectivement covoituraient. Mais je suis d'accord avec vous que c'est tout à fait dommage qu'une minorité qui se force, puis qui s'arrange, puis qui répond à notre appel de revoir la façon de se déplacer, soit pénalisée à cause des récalcitrants. Mais c'est sûr que là, si t'as des camions lourds alors que c'est pas supposé, on entre dans une autre game, là, si vous me passez l'expression.
L'important, qu'on donne à la base, des amendes, c'est de qu'on les intercepte, puis à un moment donné, le message va passer.
Mais après ça, il y a la faisabilité de ça, puis c'est pour ça que je dis qu'il faut parler. Moi, j'essaie, en tout cas, on est en discussion avec, c'est la Sûreté qui surveille notre réseau supérieur, donc de voir effectivement, est-ce qu'il y en a des enjeux, est-ce qu'ils sont capables d'intervenir. Puis dans tous les cas, si jamais on peut pas rouvrir cette voie-là, on est en train de regarder ailleurs sur le réseau autour là, de Sherbrooke, ça, il y a peut-être des options ailleurs. Ça, on tombe dans le réseau municipal, alors évidemment, on doit en discuter avec la Ville de Montréal, mais trouver une alternative parce que il faut maintenir une voie d'accès privilégiée pour le transport collectif. Si le transport collectif est pris dans le même trafic que les autres, personne ne va vouloir le prendre. Tu n'as pas d'avantage. Donc, c'est tout ça qu'on est en train d'évaluer.
En parlant de transport collectif, la RTM, l'Autorité régionale de transport métropolitain, trois choses. D'abord, la billetterie du REM, c'est leur responsabilité. Il y a eu des ratés à répétition. Je vais parler avec le DG tantôt, là. Mais comment ça se fait qu'il y a des ratés sur un projet qui s'en vient, qui a eu toutes les étapes, l'implantation, puis que là, c'est compliqué, la zone A, B, C, je suis pas capable d'avoir un billet. C'est un peu, là, ça s'améliore un peu, là, mais comment vous expliquez le bordel à la billetterie du REM?
Ben, je vais écouter les explications tout à l'heure de M. Gendron, le DG que vous recevez après moi. Moi, je lui ai parlé la semaine dernière, justement, à ce sujet-là. La billetterie, il y a eu d'autres petits enjeux aussi. Et là, il y a eu des articles hier. Ben,
il y a deux étudiants.
Rapport, là, mais l'application pour
l'application pour charger à partir du téléphone.
Mm-hmm.
Puis là, ce matin, on a un étudiant en design ou en graphisme, là, qui est allé installer à Bonaventure des indications pour pas que le monde se perde. Gare centrale, place Bonaventure, quand ils prennent le rang. Deux étudiants qui sont plus vite que votre patente.
Ouais, ben c'est ça. Ben là pour l'application, c'est sûr que là, tu sais, c'est quelque chose qui a été fait par un étudiant justement. Nous, on est soumis au gouvernement à certains standards.
Mais quand même,
là. Fait que, ça prend l'appel.
Ça peut pas être en 2024.
Ça prend des technologies éprouvées. Ben ça va être en 2024, à ce qu'on nous dit. Et c'est supposé être.
Vous avez pas l'air ben satisfaite de votre agence.
Ben, comment je pourrais dire? C'est sûr que là, la billetterie... Non, mais c'est parce que tu sais, en même temps, bon, ils ont travail à faire. De façon générale, puis ça, je veux le dire, puis ça vaut tant pour la RTM que pour la caisse et tout ça, il y a des ajustements à faire, il y a un rodage à faire pour le REM, c'est nouveau, puis ça, c'est correct. Et moi, j'ai souvent des discussions avec tant la caisse que la RTM. Mais c'est sûr que, tu sais, moi, j'ai eu des rencontres, plusieurs rencontres préparatoires avant la mise en service du REM. Et c'est un des aspects qu'on abordait. Là, moi, j'ai réuni dans des rencontres à la fois la CDPQ Infra et la RTM pour dire est-ce qu'on est prêt. Et la billetterie, c'était dans le sujet. On savait de quoi était responsable la RTM. C'était supposé être prêt. Là, il y a des enjeux. Je comprends qu'il y a un rodage et tout ça, mais il faudrait que ce soit prêt parce que, tu sais,
quand sur un projet qui s'étale pendant...
Coller de la signalisation.
Il me semble que tu sais que ça s'en venait. Tu
n'as pas besoin de trois mois de planification puis de 15 réunions. Là.
C'est ce qu'on a.
Tu le fais.
Dernière question. Allez-vous créer une grosse agence des transports?
Ben ça, je vous reviendrai. Ça,
non,
là, moi, j'ai
non,
pas...
non, 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 non,
non, non, non, mais ça, c'est pas moi qui ai parlé de ça aux journalistes. C'est sorti comme ça un peu, tu sais.
Ben,
bon,
c'est votre
mais,
boss.
Mais je suis en train de travailler sur quelque chose.
Monsieur Legault, c'est votre boss. C'est lui qui a parlé de ça aussi.
Oui, ben c'est parce que, comme je vous dis, on est en train de travailler là-dessus depuis longtemps. Il est au courant, évidemment, étant le premier ministre.
Donc, vous travaillez sur
mais
une agence.
Mais on n'était pas rendu à l'étape où on est prêt à en parler publiquement. Tu sais, moi, j'aime pas ça parler. Tu sais, quand je suis pas sûre, quand mes affaires sont pas prêtes, j'aime autant attendre que ce soit final et revenir en parler le cas échéant de manière intelligente. Mais je veux qu'on soit plus efficace dans nos projets d'infrastructure, entre autres de transport collectif. Ça, je l'ai dit souvent. Donc, il faut se donner les moyens de nos ambitions.
Ça va vous prendre des Top Guns dans l'agence.
Ça nous en prend partout, au gouvernement. Si on veut être capable.
Il n'y en a pas dans les ministères,
c'est
rendu tellement
compliqué, les projets d'infrastructure, je vous le dis, la saturation du marché international, les coûts, les délais, la complexité, la rareté de la main-d'œuvre, tout ce qu'on est en train de faire avec Jean Boulay pour attirer des jeunes dans la construction, des jeunes ou moins jeunes, n'importe qui, pour travailler dans la construction, ça va nous donner une chance, on a plus de monde. Tu sais, le logement, on nous dit, il n'y a pas de logement, on a besoin de rénover nos écoles, faire nos maisons des aînés, les hôpitaux, les CHSLD à rénover, des CPE à construire, tous mes projets de transport aussi. Ça fait beaucoup d'infrastructures et on revient toujours un peu dans les mêmes problèmes de délai, de saturation et de coûts. Alors, on essaie d'être plus efficace.
Vous allez croiser monsieur de l'autorité tantôt. Il est juste là dans le petit salon à côté. Il s'en vient répondre aux questions de la billetterie.
Ben, ça me fera plaisir de le saluer.
Très bien. Madame Guilbeault, merci d'être venue ce matin.
Merci à vous. Bonne journée.
Bonne journée. La ministre des Transports, Geneviève Guilbeault.
Vous écoutez l'essentiel de Paul Arcand en 60 minutes. De retour après la pause.
Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
L'essentiel de Paul Arcand.
On a appris la semaine dernière que Diane Lemieux va quitter son poste de présidente de la Commission de la construction du Québec dans quelques jours, un peu donc avant la fin de son mandat. Elle est avec nous ce matin. Madame Lemieux, bonjour.
Monsieur Arcand, bonjour.
Pourquoi vous quittez maintenant?
Parce que il y a un gros chantier que le gouvernement a initié de modernisation de l'industrie, changement à la loi, changement réglementaire. Et je me suis dit, est-ce que j'aborde ce nouveau chantier-là? J'en ai fait plusieurs. Et j'ai réalisé que, dans le fond, si j'allais jusqu'au bout de mon mandat, je faisais un peu perdre du temps à la personne qui prendrait le relais. C'est une organisation que j'ai aimée. Il a fallu qu'on s'apprivoise. Je l'ai à cœur. Et c'est vraiment une question de timing. Je voulais pas amorcer ces grandes réformes-là sans pouvoir les compléter.
Je me souviens, quand vous avez pris la direction de la commission, il y avait un climat dans le merveilleux monde de la construction,
un petit peu
turbulent, hein, on va dire ça poliment comme ça, où il y avait des campagnes de maraudage où ça brassait, il y avait des chantiers qui se faisaient vider. Il n'y avait pas beaucoup de place non plus pour les femmes qui pouvaient aller sur les chantiers,
exact.
Qui pratiquaient des métiers de la construction.
Exact.
Vous étiez avec Mme Thériault, l'espèce de duo qui arrive en disant « on va redresser ça un peu ». Qu'est-ce qui a été le plus difficile? Le changement de culture?
Oui, évidemment, le changement de culture. Ce qui a aidé, je pense, à un certain changement de culture, c'est le fait que j'ai beaucoup insisté dans les premiers mois à redresser l'organisation comme telle. J'étais convaincue qu'on devait être exemplaire, qu'on devait avoir des processus robustes, qu'on ne pouvait plus céder à des demandes inadéquates qui privilégiaient juste certains. On ne pouvait plus céder au fait que des...
C'est le fameux placement de la main-d'œuvre.
Oui, exactement. Puis à des téléphones où les inspecteurs se faisait téléphoner puis se faisait donner des ordres d'aller inspecter ou pas quelque part. Je veux dire, il fallait remettre de la droiture, de la robustesse dans cette organisation-là. Donc ça a beaucoup aidé. L'autre élément qui a été plus difficile, puis on en a encore certaines traces, c'est le fait que, par exemple, lorsqu'il y a eu des conflits importants, je me souviens quand il y avait eu les grands ralentissements de travail, les employeurs hésitaient à porter plainte. Et ça, c'est quelque chose qui a changé. Et le placement, une des choses au sujet du placement syndical, les employeurs sont beaucoup plus à même. Ils ont été beaucoup plus offensifs sur le choix de leur personnel sur les chantiers. Ça, c'est une bonne nouvelle. Mais les changements de culture, c'est long. Il reste encore une poche de résistance. Il reste encore des réactions du genre, ben, si vous faites ça, vous, la CCQ ou vous, Madame Lemieux, ça va brasser sur les chantiers. Il reste encore de ça.
Il reste encore.
Mais je dirais que le climat est meilleur, puis les gens ont compris qu'ils bénéficiaient d'une organisation plus forte puis de règles du jeu qui est respectée par tout le monde.
Est-ce qu'on arrive maintenant à attirer des femmes dans le milieu de la construction?
C'est mieux que c'était. On est parti de moins de 1%. On est rendu à peu près à plus que 3%. Il reste tout de même des enjeux. On a des nouvelles cibles qu'on veut se donner. Un des facteurs importants qui peut expliquer la difficulté, c'est beaucoup autour du climat de travail. Ça, l'industrie, il va falloir qu'elle se prenne en charge. À tort ou à raison, c'est une industrie qui a la réputation de régler ses affaires à coups de 2 par 4, puis c'est répulsif, non seulement pour les femmes, mais pour les jeunes. Il faut qu'ils prennent à bras-le-corps cette question-là.
Je pensais que c'était un peu terminé, ça. Vous me dites que c'est encore présent.
Il y en a encore. Toutes nos enquêtes, les sondages, les études, c'est encore présent. Puis c'est franchement dommage, parce que c'est une belle industrie. Les gens qui aiment ces métiers-là en raffolent. Ils sont bons, ils sont contents, ils sont fiers des métiers qu'ils exercent. Mais le climat de travail est encore un enjeu.
Prenons peut-être des exemples là, actuels. Pénurie de main-d'œuvre, par exemple. Est-ce qu'il manque vraiment beaucoup de travailleurs de la construction au Québec?
Oui, il manque des travailleurs, clairement. Il y a jusqu'à quelques années, le nombre de diplômés qui sortaient des centres de formation professionnelle finissait par compenser ceux qui prenaient leur retraite, mais ce n'est plus le cas. C'est vrai dans l'industrie de la construction, c'est vrai ailleurs. Mm-hmm. Alors oui, effectivement, il y a un manque de main-d'œuvre, clairement.
Est-ce que les travailleurs étrangers, il y en a beaucoup qui se dirigent vers la construction ou c'est dur de recruter des gens d'ailleurs?
Alors, quand on a ouvert la question de la présence des femmes dans la main-d'œuvre de la construction, ça a ouvert le chemin aussi sur d'autres questions, donc Québécois issus de l'immigration, travailleurs étrangers, Premières Nations. Le score de l'accueil de ces clientèles-là dans la main-d'œuvre, si on se compare au reste du Canada, il est pas super bon. Et ça, on a des initiatives importantes, on a des projets pilotes qui sont en route, notamment pour du recrutement de travailleurs étrangers.
Pourquoi on n'est pas bien bon?
Mais c'est encore une industrie très homogène, dont le leadership est extrêmement blanc. Regardez les instances, là. Regardez qui sont les officiers dans les associations patronales et syndicales. C'est une industrie qui est en train extrêmement homogène si on compare à d'autres secteurs d'activité.
Mais ça doit être vrai en Ontario ou ça doit être vrai ailleurs?
Mais non, ça l'est un peu moins.
Un peu moins.
Ça l'est un peu moins, okay. Effectivement. C'est, juste du point de vue syndical, je le dis pas de manière sarcastique, mais on peut compter sur les doigts de notre main le nombre de femmes qui ont un poste d'officier syndicaux à travers les vingtaines et les cinquantaines de locaux syndicaux. Alors, tu sais,
mais par exemple,
ça vient par en haut.
Si je suis un travailleur, moi, je sais pas, de la construction, là, j'ai une spécialité, je viens d'Algérie, j'arrive au Québec, est-ce que c'est le parcours du combattant pour faire reconnaître ma compétence
non,
ça va se faire assez vite?
Non, ça va se faire assez vite. On a rodé avec le ministère de l'Immigration, on a rodé tout ce circuit-là, le permis de travail, le certificat de compétence. C'est vraiment rodé, là, définitivement.
Je vais vous raconter quelque chose.
Racontez-moi.
Puis vous allez me dire ce que vous en pensez. Il y a beaucoup de chantiers à Montréal, quand même. Puis là, je vais prendre la région de Montréal, là, puis des gros chantiers qui demandent beaucoup de main-d'œuvre. Puis il y a de main-d'œuvre, vous le dites, expérimentée, qui part à la retraite. Mmh. Et souvent, on a des jeunes travailleurs. Puis des gens du milieu qui me racontent que la qualité de la construction a baissé un peu, qu'il faut refaire, qu'il y a des travaux qui sont malheureusement un petit peu faits à la va-vite, puis que qu'on est peut-être avec des produits de moins bonne qualité maintenant. C'est-tu vrai ça ou pas?
Je peux pas, il faudrait pas aussi parler à la régie du bâtiment. Est-ce que la qualité des travaux, la qualité des matériaux, etc.
La qualité de la main-d'œuvre.
La qualité de la main-d'œuvre aussi. Les chantiers vont très vite. Il y a beaucoup, beaucoup de pression, surtout dans les chantiers publics, respect des échéanciers. Et c'est vrai que comme on rentre beaucoup, de travailleurs dans l'industrie, rapidement, ça se peut que la formation, elle soit, un peu moins solide. C'est dommage. Moi, j'ai déjà lancé l'idée à l'industrie, mais bon, ils ont trouvé que c'était pas une bonne idée. Si on avait des compagnons qui ont un certain âge, qui peuvent pas autant être productifs, parce que c'est usant aussi, physiquement, ça peut être usant, se créer un groupe de mentors, puis quitte à les payer peut-être différemment, mais justement pour mieux accompagner les jeunes qui rentrent et où ils doivent travailler à toute vitesse. C'est sûr que c'est un enjeu. La formation, ça demeure un enjeu. Il faut que ce soit des travailleurs formés. On fait beaucoup d'efforts, par exemple, dans le perfectionnement des travailleurs. On a des enveloppes budgétaires incroyables pour que les travailleurs puissent se perfectionner. Mais il demeure des enjeux à ce niveau-là, j'en conviens.
Beaucoup de gens, vous allez me dire des entrepreneurs, trouvent que c'est encore très compartimenté. Une des raisons souvent d'explosion des coûts, là, je pourrais faire le même chantier par X travailleurs, mais à cause des règlements puis des cases, ça m'en prend une fois et demie, puis c'est plus cher. Les charges sociales, c'est vrai ça?
Moi, c'est l'élément qui me désole. J'ai tellement dit souvent au conseil d'administration à l'industrie, il faut être offensif. On peut pas être juste dans le statu quo puis protéger le pouvoir de tout le monde. Il faut avoir une meilleure organisation du travail. Et si on n'arrive pas à avoir des propositions un petit peu plus audacieuses, un peu plus créatives, on va s'y perdre. Tu sais, par exemple, on regarde les enjeux. On a besoin de logements sociaux. Je veux dire, si on faut y construire, il faut plus de fluidité. Puis malheureusement, puis ça me désole. Je peux pas aller plus vite que l'industrie. Je pouvais pas aller plus vite. Je pouvais les pousser, mais je pouvais pas aller plus vite. Mais ça me désole parce que ils ont plusieurs représentants sont plus dans des stratégies de garder le statu quo, de maintenir leur pouvoir, mais de ne pas voir qu'ils auraient tous intérêt et les travailleurs en seraient heureux également. Ils auraient intérêt à examiner les règles pour avoir un peu plus de fluidité. Ça, ça me désole, mais c'est leur choix.
Qu'est-ce que vous allez faire?
Je vais me déposer pour les prochaines semaines.
Et vous allez redécoller après?
On verra. Je ne sais pas. Une fois que j'aurai classé mes épices en ordre alphabétique, je ne sais pas. J'ai le goût de faire des choses que j'aime, mais j'ai vraiment besoin de me déposer, prendre soin des gens autour de moi. J'ai 4 petits-enfants formidables dans ma famille. Je vais voir, je ne sais pas.
Madame Lemieux, merci d'être venue ce matin.
C'est un plaisir, Paul.
Diane Lemieux est la présidente de la Commission de la construction du Québec.
Vous écoutez l'essentiel de Paul Arcan en 60 minutes. Bonne écoute.
Très bien, on va parler de transport en commun. D'abord, le REM, on sait qu'il y a des enjeux de billetterie. Beaucoup d'auditeurs essaient de se démêler dans ça. Et on va en parler avec Benoît Gendron, qui était avec nous il n'y a pas si longtemps, directeur général de l'Autorité régionale de transport métropolitain. Monsieur Gendron, bonjour.
Bonjour.
C'est la RTM qui a la responsabilité de la billetterie pour le REM, là.
En fait, la RTM est responsable de l'ensemble des équipements installés dans le REM, c'est-à-dire tous les équipements de vente, de perception, de contrôle de perception. On voit pas encore les barrières, là, mais d'ici la mi-septembre, on va installer des portillons, comme dans le métro, pour pouvoir accéder au REM. C'est la RTM qui a cette responsabilité.
C'est dans votre cours.
Tout à fait.
OK. Première question. Est-ce que je peux acheter un billet pour prendre le REM en ligne, sur mon téléphone, sur ma tablette?
Vous pouvez pas acheter encore en ligne des billets unitaires. Par contre, vous pouvez aller sur l'application Chrono. Il y a des détaillants à l'ensemble, sur l'ensemble du territoire pour pouvoir acheter un titre de transport.
Pourquoi je peux pas acheter un billet en ligne?
C'est pas encore accessible, cet élément-là. Mis à part la recharge, je crois qu'on peut le faire via le système de recharge Opus pour acheter un billet. Si vous avez une carte Opus et si vous avez le bidule dont on parle récemment, là, dans la presse, justement.
Que l'étudiant a trouvé, mais que vous n'êtes pas encore capable, vous, de rendre disponible.
En fait, je vais faire quelques précisions par rapport à ça, là. On a, nous, testé un prototype l'année passée, là, qu'on a développé en dedans de 3 mois. Ce prototype-là a été testé auprès de la clientèle, fonctionnait très bien avec les fonctionnalités qui plaisaient, là, dans le fond, aux usagers. Et ce qu'on fait maintenant, c'est qu'on a donné un appel d'offres, là, qui a été lancé, octroyé, et qui va livrer un système sécuritaire, parce que c'est le volet sécuritaire là, qui nous préoccupe là, par rapport à ce qui a été développé, qui répond à la fois aux normes bancaires, qui répond également au niveau des assurances, des vols d'identité potentiels, et qui va permettre là, aux citoyens de pouvoir recharger sa carte Opus sur l'ensemble du territoire, non seulement à Montréal, mais également à l'extérieur, là, parce que la communauté qu'on appelle Opus regroupe également le réseau de transport de la capitale, Lévis, et Joliette.
Est-ce que je comprends qu'il y aura un montant à payer pour l'usager qui va charger à partir de son téléphone?
C'est pas l'usager qui va avoir ce montant-là à payer.
C'est qui?
C'est l'autorité qui va le déduire des frais de transaction qu'on appelle, là. Le contrat qui est octroyé, c'est sur une durée de 7 ans. On parle de...
Il y a une redevance à la compagnie.
Il y a une redevance qui est donnée à la compagnie pour les frais de transaction, mais qui est payée par l'autorité, non pas par l'usager.
OK, mais...
Comment on fait pour des détaillants? C'est déjà le cas présentement. Exemple, les pharmacies qui vendent des billets prennent une cote là, qui varie entre 1 et 5 de la valeur du titre qui est payé là, au détaillant pour justement avoir vendu le titre.
OK, mais pourquoi c'est si compliqué l'implantation de technologie? Je voyage un peu, les auditeurs voyagent. Avec une carte bancaire, je suis capable, je fais un clic comme ça, puis je prends le métro, je prends l'autobus. Pourquoi ici c'est compliqué?
En fait, moi, depuis mon arrivée, là, c'est une priorité à laquelle je me suis donné, qui est le remplacement de notre système. C'est un système là qui date de 2015, qui est le système Opus là, qui avait été mis en place là, en 2015. Ce système-là a atteint sa durée de vie utile. Et malgré le fait là, qu'il faudrait investir pour le moderniser, c'est une vieille génération de systèmes qu'il faut littéralement changer pour moderniser, là j'en parle depuis longtemps, moderniser l'accès au transport collectif. Donc, permettre les paiements via le téléphone cellulaire, via justement d'autres types de cartes. Il y a des codes QR, il y a toutes sortes de choses qui existent à travers le monde. Donc, on veut se moderniser et c'est ce sur quoi on travaille présentement.
Mais pourquoi ce sont des horizons? Là, quand je lis les documents, là, 2024 peut-être, 2026, comment ça se fait que c'est si long que ça?
Ben, c'est un système quand même là, qui gère des transactions d'1 milliard $ par année. Donc, ça prend des niveaux de sécurité. Il y a également énormément d'équipements là, à mettre en commun, c'est-à-dire tous les valideurs de tous les autobus de la région métropolitaine, de même qu'il y a des équipements qui sont au niveau du métro, au niveau du REM, au niveau des trains. Donc, on y travaille là ardemment.
Mais ça va pas vite.
Ben, ça va pas vite. Je vous dirais que c'est usuel. Le contrat d'un an pour une solution de recharge, là, c'est ce qui se passe à travers le monde. On a commencé en retard. Ça, on doit le dire. Là, il y a eu un retard du fait qu'on a commencé beaucoup plus tard. L'avantage qu'on a, c'est qu'on sera pas les premiers à tester des technologies nouvelles qui ont d'ailleurs été éprouvées maintenant. Là, donc, on va pouvoir mettre ça en place rapidement sans qu'il y ait de bugs.
OK, mais par exemple, là, à quel moment, là, peu importe, là, je reviendrai sur le REM, là, mais à quel moment je vais pouvoir, comme je le fais partout, là, avec ma carte, simplement connecter avec un lecteur, puis avoir un billet, avoir une recharge. À quel moment je vais prendre l'autobus, j'aurai pas d'argent, j'aurai pas de billet, je vais faire clic, merci, bonsoir.
Ça, on parle du paiement ouvert. On est déjà en pilote en ce moment avec une carte de crédit ou une carte de débit à la Société de transport de Laval. Donc, on a financé ce projet pilote-là pour justement voir comment les
clientèles
régionales. Ça marche très bien, sauf que là, on est en pilote avec un système qui est maison, qui est limité à la STL, là, qui était comme un petit groupe pour nous permettre de l'expérimenter. Et ça, on va l'étendre à la grandeur de la région métropolitaine. J'ai pas la date exacte, là, mais on parle de quelque part en 2025 où ça va être accessible. Avant ça, on a dès l'an prochain, début 2024, la recharge dont on parle là, avec un téléphone cellulaire pour notre carte Opus, nous empêchant d'attendre là, en ligne longtemps. Là,
OK, je reviens sur le REM, là. Je vous donne des cas, puis vous me dites si ça se peut. Quelqu'un qui me raconte qu'il achète 10 billets sur une carte, là, c'est 10 billets. Il passe. Parfait. Il est avec sa femme puis ses deux enfants. Ça marche pas. Tu peux pas utiliser les mêmes billets à partir de la même transaction. Ça se peut-tu, ça?
C'est le cas, ça, du système actuel depuis très longtemps. Là. C'est la limite dont je vous parle du système Opus. Effectivement, ça fonctionne pas. Un même titre peut pas être validé à l'intérieur d'un délai pour éviter justement que quelqu'un à l'époque. Là,
oui, mais c'est un autre billet. Là. Ça veut dire c'est un autre qui... Je repasse pas un billet déjà utilisé. Là.
Je comprends, là, mais il y avait des gens là, qui pouvaient taper deux fois par inadvertance sur le sélecteur. Puis pour éviter qu'on vienne débiter deux billets, ben, il y a une règle là, de temps qui a été
mise. M. Gendron, ça peut pas être une explication, ça, entre vous et moi. Là, avec respect, là, ça peut pas... Moi, là, je suis une famille, je suis à la tête, on est quatre, là, puis je me dis je m'achète 10 billets. Là, ce que vous me dites, pour que ça marche, faut que j'achète 4 fois un billet différent.
Ben, on vend maintenant, justement, des groupes de billets là, depuis vendredi passé dans les DAT. Donc, on a permis l'achat multiple, qu'on appelle, là, qui permet à une famille de voyager, de pas de faire 4 transactions, mais une seule transaction. Et ça, c'est déjà disponible depuis vendredi passé dans l'ensemble des stations du REM.
OK. Depuis vendredi, ça l'était pas avant?
Ça ne l'était pas avant. C'était pas une fonctionnalité qui était disponible. On a corrigé la situation. Faut comprendre que le REM a attiré beaucoup, beaucoup de gens qui voulaient l'essayer. Donc, des jeunes familles, justement, avec des enfants, des grands-parents avec leurs petits-enfants. Et on a vu là, qu'il y avait beaucoup, beaucoup d'attentes. Mais les files d'attente sont réglées là, depuis la semaine dernière.
OK. Le REM, là, c'est pas arrivé comme par hasard dans l'univers. Là. C'était annoncé, c'était prévu, puis... comment ça se fait qu'on n'a pas déjà planifié ce que vous avez été obligé de changer en catastrophe vendredi passé?
Ben,
personne ne veut venir ça. Là. Tu dis, le REM, là, moi, je passe devant le chantier, il va finir par marcher, cette affaire-là. Comment ça se fait que, non, on attend que ça pète?
Ben, en fait, là, c'est des... Évidemment, on peut pas tout prévoir dans un nouveau système comme ça. On avait déjà les billetteries qui vendaient l'ensemble des titres. On a vu l'affluence qui était vraiment un effet de nouveauté où les gens voulaient l'essayer et qui a créé énormément de files d'attente. Donc, on a corrigé la situation là, depuis vendredi passé pour participer à ça.
OK. Parlons de la signalisation. Êtes-vous satisfait de la signalisation actuelle ou si on vous fournit des étudiants en graphisme, ça pourrait vous aider?
Ça, c'est un dossier pour lequel, là, dès ce matin, M. Arcan, il y a un groupe qui se réunit là, pour régler la situation. Je suis tout à fait là, c'est inacceptable ce qui se passe présentement. Donc, on se donne, moi j'ai donné là, le défi aux équipes de dire que d'ici un mois, il faut que ça soit réglé. Faut comprendre que c'est des partenaires privés là, qui sont entre les deux. En fait, il y a trois entités qui doivent répondre, c'est-à-dire la signalétique à l'intérieur du réseau du REM, la signalétique à l'intérieur du réseau de la STM. Puis nous, on va s'occuper de ce qui se passe entre les deux, là, c'est-à-dire les corridors pour relier là, les deux en question. Il y a trois partenaires privés avec lesquels là, on a déjà une rencontre ce matin pour trouver là, l'ensemble des solutions et de faire ça correctement. Là, on ne peut pas apposer des panneaux.
Non, mais c'est mieux que rien, moi vous dire, là. Comment ça se fait que ça n'a pas eu lieu il y a un an, ça, cette réunion du comité? Comment ça se fait que c'est là, ça pète un matin, puis là, whoop, qu'on se réunisse?
En fait, il y a des gens qui sont à pied d'œuvre depuis longtemps par rapport à ça, mais force est de constater que ça
avance pas. Ils sont à pied d'œuvre, là.
Non.
Ils sont assis, ils sont sûrement pas à pied d'œuvre.
Force est de constater que ça avançait pas assez rapidement, mais moi, j'ai donné un ultimatum, là, d'ici un mois, il faut que ça soit réglé. Il y a des enjeux avec Parc Canada, mais on va se donner les moyens de corriger la situation d'ici un mois.
Qui est responsable de la présence, disons, de personnel pour aider les gens à se familiariser avec le système? C'est-tu vous, ça, ou c'est le REM?
On a des escouades qu'on appelle terrain que nous, on a fournis, qui sont aux abords des équipements de billettique. Ça, c'est nous. Le personnel qui est là pour plus là, guider les usagers à l'intérieur des services sont fournis là, par, justement, le REM.
Je vous pose la question parce que dans votre plan, identifiez votre zone de départ et votre zone d'arrivée. Il y a la zone A, B, C, D. L'agglomération de Montréal, Longueuil-Laval, couronne nord et sud, hors territoire de l'ARTM, puis territoire de l'ARTM. Pour le commun des ours, là, il comprend rien là-dedans. Là. Comment est-ce qu'on fait pour se démêler? Mettons que je suis un touriste parisien, je vais demander de faire un tour sur le REM. Là. Je ne sais pas trop de quoi vous me parlez.
En fait, là, c'est pour ça qu'il y a des brigades présentement là pour justement là accompagner les gens là. Puis on a ce qu'on appelle un sélecteur de titres sur notre site web puis sur l'ensemble des sites web des sociétés de transport qui permet à l'usager là tout simplement en cliquant de sa ville d'origine à sa ville de destination, on va lui dire exactement le titre que ça lui prend.
Ça c'est clair.
Oui.
La ministre Guilbeault était ici tantôt. Elle est pas trop satisfaite. Je veux juste vous dire ça. Là. Je ne sais pas si vous l'avez entendu, là, mais elle trouve que c'est lent, puis elle a des appels de la caisse de dépôt. Puis, grosso modo, elle n'est pas contente de l'ARTM. Avez-vous un message pour elle?
Ben, en fait, là, lui dire qu'on prend très au sérieux là, les corrections à apporter là, dans le cadre, justement, là, de l'expérience client, je dirais. Là, on va travailler, nous, pour que le client ça soit le plus fluide possible dans ses déplacements. Et dans l'acquisition des titres de transport et justement la signalétique là, pour rendre du REM au métro ou au train, là, il y a vraiment des lacunes significatives.
OK, puis je veux bien comprendre. Toutes les décisions que vous prenez sont entérinées par le conseil d'administration, j'imagine.
Tout à fait.
Comme directeur général, vous présentez vos plans, vos stratégies au conseil.
Exact.
Le président du conseil, c'est qui?
Patrick Savard, qui est président du conseil d'administration.
Puis il est là à temps partiel?
En fait, comme la majorité des présidents de conseils d'administration, c'est pas des postes à temps plein.
Mais là, c'est 200 000 piastres par année.
Oh, c'est pas 200 000. Je crois que, puis j'y vais de mémoire, là, M. Arcan, j'ai pas l'information précise, mais je pense que de base, c'est 60 000 $ puis après ça, c'est des jetons de présence. Là,
mais ça peut aller jusqu'à 200 000, non?
Je penserais pas
peut-être
que ça
peut
aller jusqu'à 200 000. Là.
Lui, on l'entend pas non plus. C'est quand même lui qui est le président du CA qui autorise tout ça.
C'est le président du conseil d'administration, okay. Oui.
Merci d'être venu ce matin, M. Gendron.
Merci, M. Arcan.
Benoît Gendron est le directeur général de l'Autorité régionale de transport métropolitain, l'ARTM. Parlons maintenant de la COVID, la santé publique qui prépare la campagne de vaccination pour l'automne. Le directeur national est avec nous, Dr. Luc Boileau. Dr. Boileau, bonjour.
Bonjour, M. Arcan.
Alors, donc, pour les gens qui pensaient que la COVID était un souvenir désagréable, mais quand même le passé, ça prouve que la COVID est toujours présente quand même dans l'environnement, là.
Oui, la COVID nous a jamais quittés. Ce qu'on a comme population au Québec, c'est qu'on est devenu beaucoup plus immunisé et ça nous a aidé à traverser tous ces derniers mois, bien sûr. Mais là, il y a une relance là, de la contagion et on voit effectivement une augmentation des cas, comme vous le soulignez, et une augmentation des hospitalisations. On n'est pas dans une situation là qui nous rappelle le passé, pas si lointain que ça, mais c'est quand même toujours présent et c'est pour ça que plusieurs personnes devraient bénéficier de la nouvelle vaccination qui va arriver probablement en tout début octobre.
OK. Qui sont les gens qui devraient se faire vacciner, là, aller chercher cette dose supplémentaire?
Ben, je vous surprendrai pas en disant que ça pourrait être les mêmes groupes que toujours, là, c'est-à-dire les personnes plus âgées, donc celles qui sont en CHSLD, en RPA ou qui vivent dans des ressources intermédiaires, là, des groupes surtout de personnes plus vulnérables, plus âgées, les personnes qui sont immunosupprimées, les personnes dialysées, celles qui ont des maladies chroniques lourdes, elles se connaissent bien, les travailleurs de la santé, bien sûr, les travailleuses, les femmes enceintes aussi devraient bénéficier de ça et dans certaines régions éloignées, là, il y a des gens qui peuvent être plus isolés, c'est plus compliqué. Alors là, les directions de santé publique sont capables de les inviter à être vaccinés. Ça, c'est prioritairement. Mais, M. Arcan, la vaccination qui s'en vient, comme les autres, sera disponible pour toute la population du Québec qui souhaite en bénéficier. Puis, moi, je dis pas aux gens, courez pour avoir ça, là, parce que c'est essentiel pour votre survie. Mais si les gens veulent en profiter, bien sûr, ça peut être bénéfique. Ça diminue les risques d'avoir la maladie, d'avoir des infections plus graves. Alors, à compter de 6 mois, on peut bénéficier de cette nouvelle vaccination qui n'est pas encore homologuée, qui s'en vient rapidement, nous le souhaitons, là, dans le mois de septembre, à partir des autorités canadiennes. Et on devrait l'avoir, comme je le mentionnais, pour le début du mois d'octobre.
Bon, là, vous me corrigerez, mais ce qu'on comprend, c'est une espèce de sous-variant du variant, là. Est-ce que le vaccin est constitué pour justement faire face à cette nouveauté?
Oui, dans la mesure où les variants ne se modifient pas énormément l'un à l'autre. Là, ben, en fait, on est dans les sous variants. Là, il y a eu beaucoup là depuis quelques années, là, mais dans les derniers mois. Alors, pour répondre mieux à votre question, c'est un vaccin, construit sur le variant XBB. Alors, on a actuellement un dérivé de XBB et celui qui est émergent au Québec, on entend parler, c'est aussi un variant XBB. Donc, on préfère que les gens attendent le nouveau vaccin qui va être construit sur ça que de profiter du vaccin actuel qui, lui, est déjà un peu dépassé. Là. Alors, c'est le problème avec la COVID, c'est que les variants peuvent se développer au fil du temps, c'est ce que nous vivons, et il faut donc renouveler notre vaccination avec des vaccins plus à jour. Et c'est ce que nous allons proposer aux Québécois dans quelques journées, quelques semaines.
Est-ce que vous savez quelle sera la mécanique, autrement dit, est-ce que ce sera l'inscription par la plateforme là, Clic Santé? Est-ce que ce sera offert, par exemple, dans les pharmacies? Est-ce qu'on va rouvrir des centres de vaccination? Savez-vous comment ça va marcher?
Oui, les centres de vaccination n'ont jamais vraiment fermé parce qu'on profite de ces installations pour offrir d'autres services et d'autres vaccinations. On a eu le Mpox, on a bien sûr la COVID encore, des gens qui se font vacciner. Alors, nous avons gardé ces centres-là. Ils sont très nombreux au Québec. On est autour de 75-80. Alors, les centres de vaccination vont continuer, comme vous posez la question. Les gens vont pouvoir s'inscrire à Clic Santé. Ils vont pouvoir aussi avoir accès dans les pharmacies communautaires. Donc, c'est à peu près essentiellement le même système que vous avez connu, qu'on a tous connu, qui était très efficace. Et j'étais encore avec la directrice responsable de tout ça tôt ce matin. Et je pense qu'ils sont affairés à faire en sorte que ce soit à nouveau un excellent succès.
J'ai une question sur un tout autre sujet à vous poser ce matin, parce que la santé publique, là, évidemment, on focus beaucoup sur les virus de la grippe, COVID et tout ça, mais c'est très large, la santé publique. Puis l'obésité fait partie, sauf erreur, là, des préoccupations de santé publique. Je me trompe pas quand je dis ça, là.
Ben non, vous trompez pas certainement.
Il y a un débat, puis j'aimerais ça avoir le point de vue du directeur national de la santé publique. Il y a un traitement, puis il y en a plusieurs autres, mais le plus connu, le Ozempic. qui s'est avéré efficace bon, dans la lutte contre le diabète de type 2, mais aussi qui a amené des pertes de poids chez des gens. Et là, c'est la question fondamentale est la suivante. Pour les diabétiques, on rembourse, mais pour les gens qui ont le traitement pour perdre du poids, ils payent de leur poche. Moi, j'ai des professionnels de la santé qui me disent, des médecins, ce n'est que repousser à plus tard. Parce que si les gens qui ont un problème de poids maintenant ne le prennent pas en charge, ben plus tard, ils vont avoir une série de problèmes, puis là, l'État va payer. Vous en pensez quoi? Est-ce que l'État devrait payer pour ce traitement qui permet aux gens de perdre du poids?
Bon, ça, M. Arcan, c'est vraiment une bien bonne question. Vous avez le tour, des fois, d'aller me chercher sur des affaires comme ça. En fait, je peux avoir une opinion très personnelle, mais nous avons la chance au Québec d'avoir un institut national que j'avais le privilège de diriger il y a pas si longtemps, l'INES, qu'on appelle l'Institut national d'excellence en santé et services sociaux, et on lui pose la question. Mais en même temps, l'INES est prise parce que notre loi actuellement sur les médicaments ne nous permet pas de donner des médicaments qui visent des certains angles, notamment la perte de poids ou autre chose plus esthétique. Mais la question est bien posée parce que c'est un enjeu de santé publique, là, vous le soulignez. L'obésité, c'est pas simple. Je suis actuellement, je vous parle de Chibougamau, j'étais avec les Nations CRI hier où il y a des grands problèmes d'obésité de ce côté-là. Et on l'a aussi dans le reste du Québec, mais pas affirmé autant. Alors, ça reste un enjeu de santé publique majeur. Alors, nous réfléchissons actuellement sur l'utilité de ce médicament et de son support, comme vous le soulignez. Mais il faut faire attention, là, parce que c'est pas en prenant des habitudes de vie qui sont pas nécessairement les meilleures, puis en se disant, ben je vais compenser avec un médicament, qu'on vient de régler un problème de santé publique. Ça vient avec bien d'autres choses, donc il faut considérer plusieurs autres aspects. Pour nous, en ce moment, la priorité en termes d'obésité, c'est de s'assurer qu'on a des environnements qui seront d'intérêt pour tout le monde de se développer, de marcher, de bien se nourrir, d'avoir accès à un mieux-être plus collectif comme ça et qui vont faire en sorte de changer nos habitudes de vie et de réduire ces risques-là, pour lesquels il y a d'autres enjeux. C'est pas juste le diabète, ça peut nous amener toutes sortes d'autres situations, incluant l'augmentation des risques de cardiovasculaire, cancer, etc. Donc, faut le regarder dans un ensemble. Et actuellement, le gouvernement, comme les gouvernements, ont développé toutes sortes de stratégies, puis la santé publique aussi. Ça porte pas toute l'efficacité qu'on souhaiterait, là, parce qu'on reste avec une population assez obèse.
Mais je comprends, mais quand arrive un traitement comme celui-là, veut pas, ça suscite une discussion, un débat, parce qu'à peu près tous s'entendent pour dire que c'est probablement le traitement, puis là, je comprends que ça règle pas tout, là, mais peut-être le plus efficace par rapport à tout ce qu'on a vu arriver sur le marché dans les dernières années, là.
Oui, et il y en a d'autres.
Il y en a
d'autres molécules qui sont en train d'être développées, d'autres qui rentrent sur le marché. On a des experts qui s'affairent là-dessus abondamment. Alors, parce qu'il y a des avantages, mais il y a des risques. Il n'y a pas beaucoup de médicaments qui existent là, qui n'amènent pas un certain lot de risques. Alors, M. Arcan, donc on faut qu'on y aille, surtout si on veut avoir une approche qui est, entre guillemets, comme vous le suggérez, plus large, plus populationnelle. Là, il faut mesurer les avantages puis les risques comme il faut. Et on a des groupes d'expertise qui s'y affairent, mais nous n'avons pas la réponse ce matin. Mais votre question est pertinente et elle est posée. Le ministre nous la pose et nous sommes en route pour y porter toutes les réflexions et les éclairages requis.
Merci, Dr. Boileau. Bonne journée.
À vous aussi.
Au revoir.
Bonne journée.
Dr. Luc Boileau est le directeur national de Santé publique du Québec. Maintenant, je vais vous parler de l'agenda de la rentrée au Collège Maisonneuve. C'est pas la première année, là, il y a une controverse. L'agenda qui a été remis aux étudiants du Collège Maisonneuve contient cette année des textes qui, c'est un peu comme une mise en garde qui est faite aux étudiants en disant, si jamais la police vous intercepte, voici vos droits, voici leur façon de faire. Peut-être à côté de vous, il y a comme un agent double. Faites attention quand vous parlez. Il y a comme un espèce de sentiment anti-police qu'on inculque dans cet agenda. Et ce qui ajoute, je dirais, à ça, c'est que vous avez un espèce de dessin montrant trois porcs habillés en policier. Trois pigs. Je veux bien la liberté d'expression, mais je trouve qu'il y a des limites, d'autant plus que vous avez à Maisonneuve des étudiantes et des étudiants qui sont en technique policière. Fait que tu développes dans ton collège, par l'agenda de l'association étudiante, au nom de la liberté d'expression, tout un discours contre la police. Puis t'as des étudiants puis des étudiantes qui vont devenir policiers. Me demande ce que ça donne comme climat. Anouk, on va protéger son nom, elle est étudiante en troisième année de technique policière au collège Maisonneuve. Bonjour Anouk.
Bonjour.
Comment vous réagissez quand vous voyez l'agenda de votre association étudiante?
On a beaucoup, sincèrement, de frustration cette année, considérant que l'année passée, ça avait été aussi un problème et on leur avait déjà apporté ce sujet. Donc, beaucoup de colère, puis aussi beaucoup de pressentiments qu'on ne s'est pas aimés.
Vous dites quand même que l'an dernier, c'était déjà là, un peu cette tendance-là qu'on pouvait voir dans l'agenda. Vous trouvez ça pire cette année?
En fait, c'est que l'année passée, c'était un sujet à propos d'abolir la police et on avait déjà fait une rencontre avec l'association étudiante pour, en fait, leur dire qu'on n'aimait pas le fait qu'il y ait déjà un texte dans l'agenda à notre sujet, puis de savoir si ça pouvait être retiré ou qu'est-ce qui pouvait être fait à ce sujet. Et cette année, justement, ils nous avaient dit que l'école allait faire leur propre agenda, en fait. La direction allait faire leur propre agenda et l'association étudiante allait avoir leur propre. Et c'est ça qui a été fait, mais on ne s'attendait pas qu'il y ait encore des textes contre la police dans l'agenda cette année.
Il y a combien d'étudiants et étudiantes à peu près dans la technique policière?
On pourrait parler autour de 300 avec les trois cohortes régulières et les cohortes de l'AEC.
Dites-moi, là, ça se passe comment dans le collège? Chantez-vous que vous êtes, je sais pas, les étudiants haïs, là, que vous êtes dans un coin puis on ne fraye pas trop avec les autres?
On a toujours eu ce présentiment-là. Ça a souvent été comme qu'est-ce qui a été apporté, comme quoi que les techniques policières, on était dans notre coin. Mais je crois que ça a été un sentiment vraiment plus encouragé. Par exemple, dans l'hiver 2022, ils avaient distribué des macarons dans l'école, dont des macarons écrits « ACAB » dessus. Donc, ça, on a vraiment eu l'impression que ça a été, encouragé par l'école, ce pressentiment-là.
Attendez, j'ai pas trop compris. Des macarons quoi, vous dites?
Écrits « ACAB » dessus.
Qu'est-ce que ça veut dire, ça?
ACAB, en fait, c'est pour contre la brutalité policière.
OK, oui, oui.
Donc ça avait déjà été partagé dans l'école. Il y avait aussi eu des graffitis sur l'école écrits « ACAB ».
C'est en fait le « All cops are bastards ».
Exactement.
C'est un bizarre de climat pour étudier, entre vous et moi. Là.
Oui, vraiment. Et surtout qu'on est supposé se sentir en sécurité. On est tout courant comme policier, justement, c'est qu'est-ce qu'on s'attend. En général, pas tout le monde va nous aimer, mais pour le lieu où on se fait enseigner, en fait, on s'attend pas à cette ambiance-là.
OK, ben je vous souhaite une bonne dernière année au collège, Anouk. Merci de nous avoir parlé.
Merci beaucoup.
Au revoir. Anouk, étudiante, troisième année, technique policière. Imagine-toi, 300 comme ça, là. Puis tu sais, on est dans la liberté d'expression. Je veux bien, là, le collège nous dit bien sûr, ce n'est pas dans notre cours, c'est l'agenda de l'association étudiante. Mais tu sais, la liberté, là, il me semble que, tu sais, le respect aussi, des fois, ça a le droit d'exister. Surtout que ces étudiants payent les mêmes cotisations que les autres, là. Puis tu te fais ramasser, c'est comme si ton syndicat t'attaquait. C'est exactement ça. Puis te méprisait, c'est pas juste une attaque, là. C'est ta méprise. Puis tu sais, le texte de dire, ben soyez prudent, puis parlez pas aux policiers, OK, correct, là. Mais la caricature est-tu bien nécessaire? Bien nécessaire. Puis savez-vous quoi? Mon expérience m'enseigne que ce genre d'association étudiante qui aime beaucoup parler de liberté d'expression, quand on les confronte, puis que nous, on invoque notre liberté d'expression pour dire ce qu'on pense d'eux, ils ont un petit peu de misère. Puis ils ont un petit peu de misère avec la dissidence. Puis un petit peu de misère aussi à entendre les gens, même comme Anouk, là, c'est pas pour rien, il faut protéger l'identité du monde, ne pas se faire écœurer non plus. Tu sais, les grands, grands, grands défenseurs de la liberté d'expression sont souvent les plus intolérants quand ils se sentent eux-mêmes attaqués.
C'est 23.
Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir. Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour.
Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.